On voit qu'il y a trois types de questions. Le premier type de question, le plus général, c'est de savoir où s'arrête le libre arbitre et où s'arrête le projet divin. Ça, c'est le premier type de question. Cela enchaîne tout de suite un problème qui est moins théorique, et qui est de savoir, est-ce que l'antisémitisme ou les malheurs qui s'abattent sur le peuple juif sont-ils le résultat des fautes du peuple juif, ou alors font-ils partie d'un certain projet, mais qui ne concernerait pas les fautes du peuple juif? Troisième type de question, si Dieu est à l'origine des malheurs individuels ou bien collectifs, comment est-ce que l'on peut comprendre la notion de justice et est-ce que l'on peut découvrir ce projet divin justement derrière ces malheurs-là? Que ce soit du point de vue individuel ou du point de vue collectif. Je répète encore une fois les trois types de questions. La première question, la plus générale, comment concilier l'idée de projet divin avec celle du libre arbitre. La deuxième qui en découle, lorsqu'il arrive un malheur au peuple juif, la cause vient de Dieu ou la cause vient de l'homme. Troisième question, comment percevoir et découvrir la justice derrière des malheurs qui s'abattent et dont nous avons l'impression qu'ils frappent injustement. On va essayer de répondre d'abord au dernier type de question et on verra qu'en fin de compte, on peut déjà avoir une approche pour les autres questions aussi. Tout le monde connaît les 13 articles de foi qui ont été rédigés, non pas qui ont été inventés, mais qui ont été rédigés à partir de la philosophie du judaïsme par le Rambam, par Maïmonide. Le premier article commence en disant « Ani ma'amin b'emunah shelema » Je crois d'une certitude ou d'une croyance parfaite chez Aboré Yidbarach Shemo que celui qui a créé le ciel et la terre, Uboré, c'est lui qui a créé, qui crée Et Kol Abruim, toute créature, Umanid, et c'est lui qui conduit le monde, ou à ça, c'est lui qui a fait, ou au C, c'est lui qui fait, veuilla à C, il fera, et kolama asim, tout ce qui se passe dans le monde. Ça, c'est le premier article de foi. Le Rambam Maïmonide a commencé par celui-ci. Si nous devons donc aborder des problèmes et savoir quelle est la solution qui se trouve dans la Torah, nous devons donc admettre cette première position. L'idée que nous avons de HaKadosh Baruch Hu, de Dieu, elle est qu'il n'y a rien qui puisse se faire, qui a été fait et qui se fera en dehors de sa volonté. Cela nous mène évidemment à des questions immenses. Comment envisager tout ce que nous catégorions dans la catégorie du mal? Comment envisager que cela fasse partie du projet divin? Et en fin de compte, c'est là le sujet de ce soir. Il y a un verset dans la Torah dans la paracha de Hazinu, à la fin de la Torah, où il est dit « Quel Emouna ve en Avel ?» Dieu est un Dieu de Emouna en qui l'on peut avoir confiance, il est crédible, « En Avel, il n'y a pas d'iniquité. » Sadik, il est juste, Yachar, il est droit, Sadik ve Yachar hu. La Torah pose donc, comme théorème, comme hypothèse de travail, Sadik ve Yachar, il n'y a rien qui ne soit pas ni juste ni droit dans ce que fait Dieu. La raison en est, on peut le comprendre, on va ouvrir juste une petite parenthèse, celui qui fait du mal ne le fait jamais que parce qu'il a intérêt au mal. Je ne puis faire un acte qui soit mauvais pour l'autre s'il n'est pas bon pour moi. Je ne puis faire un acte que l'on soit obligé de désigner comme mauvais, si je ne pense pas qu'en fin de compte, il y a quelque chose de bien qui en sortira pour moi. C'est la racine de tout le mal qui est fait dans le monde par un homme envers l'autre. Chez Dieu, nous devons poser que cela n'existe pas, car il ne peut chercher à se faire du bien, il ne peut chercher un résultat qui soit bon pour lui, car il n'a pas d'exigence, il n'a pas de besoin. Quel Emouna veut en Avel, je peux compter sur quelqu'un lorsque, dans ma situation vis-à-vis de lui, il n'y a que moi qui ai une exigence, mais lui n'en a pas. À ce moment-là, je peux compter sur lui. Quel Emouna, il est crédible, veut en Avel. Il ne peut pas faire quelque chose d'inique, quelque chose de méchant, parce que celui qui fait quelque chose de méchant, c'est parce qu'il a besoin de ce qui lui fait du bien derrière la méchanceté. La Torah pose donc que cela ne peut pas exister selon l'idée que nous avons d'Akadosh Baruch Hu. Et de là, le Rambam vient et dit, tout ce qui est fait, qui a été fait, qui sera fait, cela ne peut en aucun cas être en dehors de la volonté d'Akadosh Baruch Hu, et tu poseras que en Emouna ven Avel, il n'y a pas de mal, il n'y a pas quelque chose d'inique. Et de là viennent toutes les questions. Comment le comprendre? Pour cela, on est obligé de parler du problème du libre arbitre. Vous savez que l'on approche de Pourim, et que la Gemara nous demande où est marqué le mot Haman dans la Torah. Haman, celui qui a persécuté les Juifs lorsqu'ils étaient en exil après le premier temple en Perse. Haman, où est-il marqué dans la Torah? C'est une exigence curieuse, mais c'est l'exigence des Chachamim. Si Dieu osé veya asé, c'est lui qui a toujours fait et qui fera tout, cela doit être marqué dans la Torah. Et les Chachamim répondent, c'est marqué dans la Torah lorsque Adam, le premier homme, a fauté. Dieu lui a dit, Haminaet, as-tu mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Les Chachamim nous disent, Hamin, hey, Nemnun, Aman. Pour comprendre ceci, il faut comprendre une chose. Il y a deux questions sur ce verset. Pourquoi Dieu a-t-il besoin de demander à Adam, puisqu'il sait très bien qu'il en a mangé? Deuxième chose, lorsque Adam avoue qu'il en a mangé, il a solutionné le problème de l'humanité, parce que s'il n'en avait pas mangé, nous ne serions peut-être pas là. Notre histoire n'aurait pas eu ce cours-là. Et nous posons que Dieu a ça, celui qui a fait, osé, c'est lui qui fait, veya, c'est lui qui fera. tout ce qui se passe. Et pour lui, il n'y a pas de temps. S'il avait donc obéi à Akadosh Baruch Hu, tout ce que Dieu avait prévu dans la création du monde jusqu'à la fin des temps ne se serait peut-être pas passé comme cela. Il était donc normal qu'il le mange. Il était donc prévu. Il était donc obligé de le manger. Qu'est-ce que Dieu vient lui demander? Haminaet, est-ce que tu as mangé de cet arbre? Il était obligé de le manger. La réponse des Chachamim est pourtant claire. Adam, lorsqu'il a mangé de ce fruit, au moment où il a mangé, il s'est imaginé que ça n'était pas aussi grave que ce que Dieu lui avait dit. Il s'est imaginé qu'à l'instant où il le mangeait, Dieu détournait la tête. Il s'est imaginé qu'à l'instant où il mangeait ce fruit-là, il exerçait son libre arbitre. C'était quelque chose qui le concernait lui, qui ne concernait pas Dieu. La vie d'un homme le concerne, mais ne concerne pas Akadosh Baruch Hu. Si on ne me donne pas le choix, ça n'est pas la peine de vivre. C'est pour ça que Dieu est venu lui demander, « Aminaes, en as-tu mangé? As-tu exercé ton libre arbitre? Moi, je n'y suis pour rien, je ne suis pas là, je n'étais pas là. Je n'ai rien vu, je n'ai rien fait. » Mais les Chachamim disent, celui qui croit qu'Akadosh Baruch Hu n'est pas là, celui à qui Akadosh Baruch Hu doit s'adresser, selon ce que lui pense, c'est-à-dire que Dieu n'a pas vu, celui-ci, c'est Haman. Pourquoi c'est Haman? Parce que Adam Arishom, Adam le premier homme, personne ne l'a forcé à manger du Etz Hadaat. Il a choisi lui-même. Il s'est imaginé que Dieu n'était pas là. Il a pensé qu'il était au vert, c'est-à-dire qu'il transgressait la parole de Dieu. Et il l'a fait. Mais en vérité, Dieu lui a dit, « Haminaet, tu as donc finalement mangé de cet arbre. J'avais raison. Personne ne t'a poussé. J'apparais maintenant, tu as vu que je n'étais pas là. Tu as transgressé ma parole. Mais en vérité, je l'avais prévu et je l'avais fixé comme cela. Parce que Dieu a sa veosé veya fait en même temps, kolama asim, tout ce qui se passe. L'homme est libre. Mais il n'est pas libre de penser qu'Akadosh Baruch Hu n'est pas là. Il n'est pas libre de penser que Dieu ne le sait pas. Il n'est pas libre de penser que Dieu ne l'a pas prévu, mais il est libre. Amin. Je te le demande. Je n'étais pas là. Tu sais que je n'étais pas là. Et je suis venu avec une interrogation, dit Akadosh Baruch Hu. Nos Chachamim nous disent que c'est l'histoire de Haman. Pourquoi? Parce que l'homme s'imagine être libre. Haman, c'est celui qui a voulu exterminer le peuple juif en Perse, a voulu faire comme Hitler. Et c'est lui-même qui a creusé sa propre tombe. Et comment? Si vous vous rappelez un petit peu l'histoire d'Esther. Lorsque le roi Assuérus a perdu sa première femme Vashti, et il le regrettait, il ne savait pas comment choisir une nouvelle femme. S'est levé quelqu'un qui s'appelait Memouchan. Ce Memouchan, nous disent les Chachamim, c'était Haman. Pourquoi s'appelait-il Memouchan? Parce qu'il était Mouchan. Il était là par la providence pour punir. Il s'est levé, il a dit, tu vas aller chercher la plus belle fille du royaume. C'est donc lui qui a attiré Esther dans le palais d'Assuérus. C'est Haman lui-même. Et le jour où il s'est réuni avec le roi et la reine Esther pour demander la destruction du peuple juif, il y avait Esther dans le palais d'Assuérus parce que c'est lui-même qui l'avait mis. Haminaet, tu crois que tu manges de l'arbre? Tu fais ce que tu veux, c'est vrai que tu fais ce que tu veux. Mais où osé veya se et kolamasim? Il y a une chose que tu ne peux pas prévoir, c'est ce que cela va donner. Parce que tu obéis à un projet sans le savoir. Tu obéis à un projet, bien que Haminaet, je ne suis pas au courant, je ne me mêle de rien, dit Akadosh Baruch Hu. Mais en fin de compte, c'est moi qui dirige. Haman, sa propre destruction. La seule chose qui pouvait lui arriver, c'est que la reine soit juive. C'était la seule façon. Et il n'aurait jamais imaginé avoir une reine juive en Perse. C'est la raison pour laquelle il s'est permis de vouloir détruire le peuple juif. Qui a mis cette reine sur le trône? Memouchan. Memouchan, c'est Haman, c'est celui qui est Mouchan par Akadosh Baruch Hu. Il a été mis de côté, il est prêt, parce qu'il y a un projet par derrière. Lui ne le savait pas, il était libre. C'est ça l'interrogation. Haman, Haminaet, As-tu mangé de cet arbre ? La deuxième histoire est encore plus frappante. Lorsque les enfants d'Israël, lorsque les bénis Israël sont partis en Égypte, il s'est trouvé un roi très malin qui s'appelait Pharaon, qui a décidé que pour que les minorités ne posent pas problème, puisque vous savez que même aujourd'hui, tout le monde a le problème des minorités, il a décidé d'en faire une main-d'œuvre gratuite. Il a décidé de son propre chef, personne ne l'a poussé. Il ne voulait pas que cette majorité, c'est-à-dire qu'elle prenne une trop grande importance dans son pays, et il a commencé à l'opprimer. Personne ne lui a demandé. Akadosh Baruch Hu ne l'a pas forcé. Et c'était quelqu'un qui avait d'immenses pouvoirs. Des pouvoirs qui sont interdits par la Torah. Mais nous dit la Gemara, il avait vu Beistagninot Shelo. Il avait vu dans ses tablettes que se lèverait un homme qui allait sauver le peuple juif. Et pour ça, il a demandé que tous les garçons juifs soient tués. Et ce sont des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers des garçons juifs qui ont été tués pour ça. Où était l'homme qui devait sauver le peuple juif? Il était dans son palais, c'est lui qui l'a élevé. C'est lui, Moshe Rabbeinu a été élevé chez Paro. Dit Yabat Paro, la fille de Pharaon l'a trouvé dans l'eau. L'a trouvé dans le Nil. Tu crois que, puisqu'Akadosh Baruch Hu te laisse le libre arbitre, alors à ce moment-là, tu es libre. C'est vrai, tu es libre de tes actions. Mais tu n'es pas libre des conséquences de tes actions. Parce qu'il y a des choses dans la vie, comme un roi qui peut avoir une fille gentille, qui trouve un enfant juif dans le Nil, qui le ramène à la maison et on a pitié d'elle, on n'a pas le courage de le jeter devant sa fille, et on le fait grandir jusqu'au jour « Ve'alou mina aretz ». C'est lui qui t'a mis dehors, c'est lui qui t'a englouti dans la mer Rouge, celui que tu voulais jeter dans le Nil, c'est lui qui t'a mis dedans. Ça, c'est une chose qu'il faut bien comprendre. Et lorsqu'on comprend ça, on a résolu dans sa tête le problème de la limite du libre arbitre et des projets divins. On va aller encore un petit peu plus loin. J'ai vu une fois dans un sefer, je ne me rappelle plus lequel, l'histoire de Moshe Rabbeinu par rapport à la question qu'il a demandé à Dieu au moment où il est monté sur le mont Sinaï. Moshe Rabbeinu aussi, Akadosh Baruch Hu, est venu lui demander « Dis-moi d'abord ces questions, et ensuite on va faire un exposé. » Et la Gemara nous dit qu'il a demandé une seule question, il n'avait qu'une question, c'est la question de ce soir. « Tzadik veralo, je vois le tzadik qui a des malheurs. Racha vetovlo, et je vois le racha, le méchant, le mécréant. Tovlo, il est heureux. » Ça, c'est une chose que je ne peux comprendre. Akadosh Baruch Hu lui a dit, tu ne peux pas voir ma face. C'est-à-dire, la façon dont j'éclaire le monde, tu ne peux pas la comprendre. Mais je vais te donner et achorai, ce que l'on voit, le halo, la lumière que l'on voit par derrière. Et ce sefer disait ceci. Comment Akadosh Baruch Hu a-t-il montré ça à Moshe Rabbeinu? Il lui a dit, « Sa enecha, regarde loin et tu vas voir quelque chose. » Et Moshe Rabbeinu a vu un homme à cheval avec une armure et une épée qui allait tranquillement au bord du ruisseau. Et cet homme était heureux. Il avait dans sa poche une bourse pleine d'argent. Et il est arrivé devant une belle rivière. Il a fait la sieste. Et il s'est agenouillé devant la rivière pour boire. Et sa bourse est tombée de sa poche. Il ne s'en est pas aperçu. Il est remonté sur son cheval et il est parti. Ensuite, est venu un homme qui était déjà à l'âge mûr. Cet homme-là est venu se désaltérer à la rivière et il a trouvé une bourse pleine de pièces d'or. Et cet homme était heureux. Il a dit, maintenant je ne serai plus esclave. Maintenant, je pourrais être libre parce que j'étais un orphelin et lorsque mon père est mort, on m'avait mis en esclavage. Et cet homme est parti tout heureux. Et à ce moment-là, Moshe Rabbeinu s'est écrié, c'est pour me montrer ça. Akadosh Baruch Hu lui a dit, il y a une échelle devant toi, monte sur la première marche. Moshe Rabbeinu est monté sur la première marche. Et Akadosh Baruch Hu lui a dit, ça enecha, regarde au loin, et voilà ce qu'il a vu. Il a vu un vieillard avec un enfant. Le vieillard avait une bourse dans sa poche. Et il cheminait lentement avec un jeune enfant. Lorsqu'est venu un homme par derrière, il l'a attaqué pour lui demander son argent. Et comme le vieillard ne voulait pas lui donner, il l'a tué devant l'enfant. Et il y avait à côté un cavalier qui était jeune et plein d'ardeur et qui n'a pas défendu le vieillard. Alors là, Moshe Rabbeinu n'a plus rien compris. Akadosh Baruch Hu lui a dit, monte encore une marche, je veux ça, enecha, voir. À ce moment-là, Moshe Rabbeinu a vu l'homme qui avait été tué par le cavalier, c'était l'homme qui avait tué le vieillard. L'enfant, le jeune homme maintenant, qui était enfant auparavant et qui avait pris l'argent, c'était l'argent de son père mort. Et le cavalier qui avait rattrapé cet homme qui avait volé l'argent et qui lui avait pris l'argent, lui-même avait été obligé de le rendre. À ce moment-là, Moshe Rabbeinu a dit, Sadik Hashem de Chol de Rachav. Je comprends le verset où il est dit, Akadosh Baruch Hu est un tzadik et juste, Bechol de Rachav, dans tous les chemins. Lorsqu'il nous arrive un bonheur, nous savons qu'Akadosh Baruch Hu est tzadik. Mais lorsqu'il nous arrive un malheur, Moshe Rabbeinu aussi a vu qu'Akadosh Baruch Hu est tzadik. Moshe Rabbeinu n'a vu qu'une histoire. Et chacun dans sa vie a pu être témoin d'une histoire pareille. Mais il a été témoin de 100 000 autres histoires où il n'a jamais vu la fin et il n'a jamais vu comment Akadosh Baruch Hu est tzadik b'chol de Rachav. Comment la justice d'Akadosh Baruch Hu se manifestait. Lui au contraire, il a vu qu'il n'y avait pas de justice. Comme Moshe Rabbeinu au milieu de l'histoire. Et ça Akadosh Baruch Hu l'avait prévu. Il y a une Gemara dans le traité d'Avodah Zara d'Avdalet au commencement. La Gemara pose une question à propos d'un verset de Hoshéa Osée au chapitre 7. Il est marqué là-bas, le prophète s'adresse au peuple d'Israël et dit, « Yisarti, j'ai rendu la vie dure. Chizakti zorotam, je leur ai fortifié les bras. Ve'elai, yachashvura, mais eux envers moi, il pense de moi du mal. » Nous dit la Gemara, que veut dire ce verset? Je leur ai mené la vie dure et je les ai renforcés, mais eux pensent du mal de moi. Amar Akadosh Baruch Hu, voici ce que Dieu a dit. Yisarti mani amarti ayasrem. Je vais leur rendre la vie impossible. Et en cela, je vais les fortifier. Je vais les rendre aptes à quelque chose de plus grand. À autre chose que la petite vie qu'il mène ici-bas. Ayafrem, baolamazé. Je vais leur rendre une vie de olamazé, de ce monde si impossible, que de le chazkam baolamaba, pour qu'ils prennent une autre dimension. Mais eux, yachashvura, eux, la seule chose qu'ils savent faire, c'est de me juger mal. Parce que nous voyons le début de l'histoire, mais nous ne voyons pas la fin de l'histoire. C'est ça le pshat, c'est comme ça qu'il faut comprendre ce verset du prophète. Et alors là, on va essayer de prendre maintenant le problème par l'autre bout. On va essayer de voir quelle est la vie que la Torah nous promet. On va essayer de voir quel est le plan quel est le projet divin que Dieu nous révèle. Et on va essayer de voir si ce que l'on voit, nous, tous les jours dans notre vie, correspond à ce projet. Pourquoi allons-nous faire le contraire, allons-nous tomber dans le piège dont parle le prophète Hoshéa? On va essayer de voir ce que la Torah prévoit pour nous, ce que la Torah nous annonce, et à ce moment-là, on va voir si ça correspond ou ça ne correspond pas. Dans la paracha de Ekev, au début du Sefer de Varim, du cinquième Sefer, Akadosh Baruch Hu nous dit, Ki kasher yeyaser ish et beno Hashem Elokecha miyafreka. De même que le père, le yaser, c'est-à-dire mener la vie dure, éprouver, rendre les choses difficiles et tourmentées. Kasher yeyaser ish et beno. De même que le père agit ainsi avec son fils. Hashem Elokecha miyafreka. Dieu aussi t'éprouve. Dieu aussi t'envoie des épreuves. Quelles épreuves? On va regarder à la fin du Sefer Vaikra. À la fin du Sefer Vaikra, Ve'im bechukotai tim asu. Et si l'imos, ça veut dire tourner en dérision. Si vous tournez en dérision mes lois, vet mishpatai tig'al nafshechem, et que mes préceptes, votre personne en est dégoûtée. Vous pensez que ça n'est pas pour vous. Le bilti asot et kol mitzotai, et que vous ne voulez pas accomplir mes commandements. Afani et c'est zot. Moi aussi je ferai cela. Et là commence une série incroyable. Et la fin de cette série, parce qu'il n'est pas utile de l'énumérer, vous pouvez la regarder, c'est dans le Sefer Vaikra, le troisième Sefer de la Torah, au chapitre 26. Et la fin dit, Zalartem imi bekeri. Si vous allez avec moi, c'est-à-dire vous vous conduisez envers moi, dit Akadosh Baruch Hu, Bekeri, il y a deux traductions, Bekeri, c'est-à-dire par hasard. Quelquefois ça vous convient, quelquefois ça ne vous convient pas. Ou Bekeri, c'est-à-dire en m'ignorant. Ve'alachti machem bechamat keri. Moi aussi je me conduirai comme cela. Ve'achaltem besar b'neichem. Vous mangerez en plus de tous les clalotes, en plus de toutes les malédictions et de tout ce qui va arriver à l'homme. Ve'achaltem besar b'neichem. Vous mangerez la chair de vos enfants. Ou besar b'notechem tochelu. Et vous mangerez vos petites filles. Ve'ishmatti et bamotechem ve'ichatti et chamanechem. Ve'natati et pigrechem al pigre gilulechem. Ve'gala nafshi etchem. C'est vos cadavres qui me dégoûteront moi, dit HaKadosh Baruch Hu. Maintenant, deux questions. On a dit qu'on va essayer de voir les choses de l'intérieur. Telle que la Torah, depuis 4000 ans, le dit. C'est marqué. Cette Torah, nous l'avons reçue au Mont Sinaï par HaKadosh Baruch Hu. Voilà ce qui est marqué dedans. Comment peut-on arriver à maudire quelqu'un d'une façon pareille? Comment peut-on arriver à dire à quelqu'un, je vous passe toutes les clalotes, mais la dernière, Rachaltem de Sar de Notechem, vous mangerez la chair de vos enfants. Celui qui était au Mont Sinaï, c'est sûr qu'il a dit que ça n'existera jamais. Lui n'y croyait pas. Nous avons vu que ça existait. Nous avons vu que le peuple juif a souffert de cette façon-là, jusque-là. Pourquoi en arriver là? Comment en arriver là? Comment concevoir un projet divin de telle sorte? Ça, c'est le verset de Hoshéa. C'est ce que vient dire le prophète Osée. Yisarti, je frapperai. Chizakti, et par cela, j'en ferai des hommes chazak durs. Yisarti dans ce monde-ci, mais chizakti pour les préparer à autre chose. Si quelqu'un croit qu'il peut comprendre la dimension de ces choses-là dans notre monde, il se trompe. Le but, il faut le chercher ailleurs. Si on croit que le but est dans ce monde-ci, c'est incroyable. C'est quelque chose qui a une dimension que nous ne pouvons pas concevoir parce que le Olam Haba, ce que nous serons après cette vie-là, nous ne pouvons le concevoir. Ce que le prophète dit, Yechashvura, tu penseras du mal d'Akadosh Baruch Hu au moment où tu liras ça. Parce que tu penseras que c'est quelque chose qui a une notion de Olam Hazé. Il y a là-dedans, dans cette horreur, quelque chose qui peut être avalé dans ce monde-ci. Non, pas du tout. C'est quelque chose qui ne peut te poser que question. Incompréhensible. Il faut pas seulement être à Horaï. Il ne faut pas voir le halo, ce qu'il y a derrière Akadosh Baruch Hu. Il faut voir le devant pour pouvoir comprendre ça. Cette dimension, on ne peut pas la réduire à ce monde-ci. Ça n'est pas une histoire. Ça, c'est pas quelque chose sur lequel on passe. Ça, c'est quelque chose qui doit faire que l'on ne peut plus dormir pendant toute sa vie parce qu'il y a une question formidable. Ça, c'est quelque chose que l'on ne peut pas oublier. C'est quelque chose qui fait qu'un juif ne peut plus jamais danser ni rire de sa vie. Ça, c'est quelque chose qui pose une question telle que la dimension du Olam Hazé est détruite. La dimension de notre petit monde, avec nos petits soucis, nos petites bêtises, notre petite misquinerie, ça y est, on a barré maintenant. On a introduit une nouvelle dimension. C'est ça ce que dit le prophète Hoshéa. Il est sorti. J'ai frappé dur. Chizakti. Tu crois que j'ai abattu, mais en fin de compte, chizakti. J'ai durci. Kacher yeyaferi shet beno. Un homme frappe son fils pour qu'il devienne quelque chose d'autre. Et son fils ne pourra jamais le comprendre parce qu'il le réduit à sa vie d'enfant. Il le réduit à la mesquinerie de ce qui s'est passé. Et il ne comprend pas son père. Kacher yeyaferi shet beno. Ne donne pas ça une dimension qui est celle du Olam Hazé. C'est quelque chose qui dépasse l'homme. Ah, ça va être fait par l'homme. Ça n'est pas Dieu qui va l'accomplir, c'est l'homme. Amina Eitz, tu crois que c'est toi qui manges du fruit? Tu crois qu'il y a une dimension dans l'homme qui fait qu'il a le choix de faire ceci et c'est naturel? Ça, c'est ce que tu vois. Mais derrière ce profil Olam Haba, derrière ce profil autre chose. Et cette autre chose, tu ne le connais pas. C'est ce qui est marqué dans la Torah, dans Ekev, au commencement de Devarim. Kacher yeyaser ish et beno. Un homme ne peut pas expliquer à son fils la raison pour laquelle il le corrige. Il ne peut pas l'expliquer. Et Dieu ne l'expliquera pas à l'homme non plus. Et celui qui croit que l'explication c'est Haman, que l'explication c'est Pharaon, que l'explication c'est Hitler, il se trompe. Parce que cette explication là est du domaine de la dimension du Olam Haba, d'un autre monde que le nôtre. Et celui qui a vécu, qui a entendu que ce que la Torah dit, ça n'est pas une menace, mais ça s'est réalisé comme nous, celui-ci devrait avoir une autre dimension maintenant. Celui-ci devrait savoir et relativiser sa vie de tous les jours. Il devrait savoir que ce que la Torah dit, ce dont la Torah parle, ça s'est passé « V'achlou et besar b'neichem ». Il y a des gens qui ont été détruits, des gens comme vous et moi, qui en ont été réduits à manger leurs enfants. C'est arrivé. La Torah nous dit, voilà la menace. Et cette menace, vous ne la comprendrez pas. Vous n'envisagerez pas. Mais au moment où ça arrivera, là vous aurez une autre dimension. Celui qui essaye de chercher, quel est ce projet divin? La réponse est ici. Le projet divin, c'est celui d'amener l'homme à une autre dimension. Pourquoi a-t-il besoin de cette dureté? Pourquoi un enfant a-t-on besoin de le corriger? Pourquoi ne comprend-il pas les choses lorsqu'on lui explique? C'est difficile à comprendre. On se demande pourquoi Dieu a fait l'homme de cette façon-là. Mais il l'a fait comme ça. Et il l'a fait comme ça au point que David HaMelech, le roi David, celui qui n'a pas vu tout ce que nous avons vu depuis, celui pour qui ça, c'était des mots. Le roi David lui-même a dit dans les Tehillim, Derech Chaim, le chemin de la vie, celui qui veut marcher sur un chemin vivant, pas sur quelque chose de mort, pas sur quelque chose de relativisé, quelque chose de pauvre. Derech Chaim, le chemin de la vie, Tochachot Moussar. Tochachot, c'est la réprimande. Moussar, c'est par les coups. Yeyasser, c'est le même mot. Kacher Yeyasser Ishet Beno. Derech Chaim. Et le Midrash nous dit, je vais t'expliquer le verset. Amar HaKadosh Baruch Hu le David. Dieu a dit à David Ameler. Chaim Atarotse. Tu veux la vie? Yisurim Atarotse. Chaim Atatsarir. Tu as besoin de vivre. Yisurim Atatsarir. Tu as besoin de subir. C'est un petit peu dur de parler de ces choses-là. C'est la raison pour laquelle je vais vous raconter une petite histoire qui a un rapport, mais c'est un peu plus léger. Il y avait un rav aux États-Unis qui s'appelait Rav Yitzhak Kuttner. Rav Yitzhak Kuttner, un jour, est allé en Suisse. Il est allé en Suisse et il a vu un pays magnifique. Des gens paisibles, un air non pollué, pas de voleurs, pas de microbes. Par NASA, on n'a pas vu un Suisse pauvre. Et il est revenu aux États-Unis. La première chose qu'il a fait, c'est de réunir tous ses élèves à la Yeshiva. Il a tapé sur la table et voici ce qu'il a dit. J'étais en Suisse. J'ai vu la qualité de la vie. J'ai vu ce que veut dire vivre. Ça n'est pas New York avec la fumée des voitures. Et évidemment, je suis allé demander aux Suisses qui m'entouraient où sont les prix Nobel que vous devez récolter avec une qualité de la vie, vous devez développer des hommes extraordinaires. Je n'ai jamais entendu parler d'un peintre suisse, un sculpteur suisse, un philosophe suisse, un gadol, un juif qui a grandi chez vous. Où est-ce qu'ils sont? Il n'y en a pas beaucoup. Et il leur a demandé, depuis 700 ans, vous n'avez pas connu de conflit ni de guerre. Neutre. Normalement, Suisse, c'est Khalavi, mais ça, c'était neutre. Et alors, il a dit à ses élèves, ce jour-là, j'ai compris quelque chose. Adam, un homme, Godel, il grandit, mitoch lachat, sous la pression. Lorsqu'il n'y a pas de pression, on reste petit. Kacher yeyasser ish et beno Hashem elokecha meyasreka. On reste petit. Et bien, chacun qui pense suisse, il pense aussi petit. Que les Suisses... C'est vrai que les Suisses sont souvent arbitres. Que les Suisses de la salle me pardonnent.
Quelqu'un signale que Henri Dunant était et juif et suisse et qu'il était le premier à recevoir le prix Nobel après avoir fondé la Croix-Rouge. Qu'il a ensuite énormément souffert et est mort dans la pauvreté la plus totale.
Azak. On va essayer d'aller un peu plus loin. La Torah nous a prévenus. David HaMelech nous l'a dit. Le prophète Hoshéa, cela fait 3000 ans qu'il en a parlé. Mais on ne comprend toujours pas. Pourquoi? Pourquoi est-ce que ça doit être comme ça? Et il y a une expression encore pire. Il y a une Gemara dans le traité de Menachot, Dafnun Gimel. Regardez là-bas, c'est incroyable. La Gemara amène un verset de Jérémie, Yud Aleph, au chapitre 11. Zayit Ra'anan, Yefe Pritoar, Kara Shimcha Hashem. Zayit Ra'anan, tu es comme une olive fraîche. Yefe Pritoar, un fruit qui est magnifique à regarder. C'est ainsi que Dieu t'a nommé Israël. Je demande la Gemara la manim shelu Israël le Zayit. Pourquoi compare-t-on Israël à l'olive? Amar Rabbi Yochanan est venu à dire, ma Zayit eino motzi shimno ela lede ketita. L'olive, il faut la presser pour qu'elle sorte de lui. Af Israël, de même le clan Israël, pour qu'ils grandissent. Shiyarzeru le Moutav, qu'ils soient des gens bien, c'est seulement à l'idée. Jérémie, avant le premier grand malheur qui est arrivé au peuple juif, la destruction du premier temple, voilà comment il s'exprime. Et on a vu qu'il en était ainsi. Pourquoi? Pour répondre à cette question, on va poser une autre question. Nous avons dit plus haut que Aman et Pharaon s'imaginaient être des hommes libres, ont fait un choix qui était les leurs, entièrement. Mais ça faisait partie de Asa, Ose, Via, Ase, du projet divin. Mais ils étaient libres. Comment un homme peut-il en arriver là? On ne va pas parler du bon Dieu maintenant. Comment Hitler peut-il en arriver là? Comment SS peut-il en arriver là? Comment est-ce possible? Peut-être qu'on pourrait répondre que c'est la rançon de la liberté. Tu veux être libre d'arriver haut, très haut, à pouvoir non pas te mesurer, mais exister à côté d'Akadosh Baruch Hu. Alors il faut te préparer à pouvoir arriver bas, très bas. Parce que celui qui veut le choix, il doit avoir le choix sur tout. Ce que Akadosh Baruch Hu a prévu, a dirigé, a été manigue, comme nous nous disons dans les Shlosh Esrim Midot, les 13 articles de foi, ça n'est que l'homme. Ça n'est que de quoi est capable l'homme. Ça n'est que ce qu'il fait de sa liberté. Et si quelqu'un demande pourquoi Dieu a-t-il créé l'homme avec ses possibilités, alors on lui répondra que c'était la seule façon de créer honnêtement, sérieusement, et de donner toutes les possibilités possibles à l'homme. Et c'est à lui d'employer. C'est à lui de s'employer à savoir choisir. Mais c'est lui qui choisit. Pharaon, personne ne lui a donné ce conseil de jeter des petits enfants dans le Nil. Il a inventé ça tout seul. Il l'a inventé, donné ce conseil de jeter